Une baleine ou un cachalot en pleine vallée de la Drôme, ça a de quoi interroger. Même perché sur la plus haute falaise, vous ne verrez pas la moindre goutte d'océan. Pourtant, le grand menhir néolithique conservé au musée d'Ille porte vraisemblablement un motif représentant un cétacé gravé à sa surface. Mais comment s'est-il retrouvé là ? Sur quel modèle ont pu se baser les Diois du néolithique pour graver une telle créature dans la roche ? Bien avant d'être découvert à Die, cet énigmatique motif de cétacé fut relevé d'abord sur quelques mégalithes bretons, puis sur des monuments néolithiques de la côte portugaise. C'est en 2000 que, dans une géniale épiphanie, le So British professeur Whittle remarque que la forme gravée du motif ne lui est pas inconnue.
Ça ressemble beaucoup à une baleine tout de même,
signale-t-il au monde archéologique. Il ajoute que l'immense animal, aperçu par les populations côtières du néolithique, aussi bien dans l'eau qu'échoué sur une plage, a forcément impressionné les esprits. Et il y a de quoi ! Encore aujourd'hui, croiser une baleine reste un événement pour n'importe qui. Dès lors, il n'est pas étonnant que les hommes du néolithique qui occupaient les littoraux aient immortalisé l'animal en le gravant dans la pierre. Le raisonnement se tient.
Sauf pour Die !
Feront remarquer les plus taquins.
Die est en pleine montagne ! Que fait une baleine au pied du Vercors ?
Ces plus taquins ont parfaitement raison. Mais le professeur Alasdair Whittle propose une explication à l'épineux problème que pose le cétacé du menhir drômois. La vision de baleine ou de cachalot a tellement marqué les peuples du néolithique qu'ils ont peut-être accordé une dimension mythique, voire mythologique aux mammifères marins. Et rien ne voyage plus vite ou plus loin qu'une idée, qu'une histoire. La légende des cétacés s'est mise en route depuis les rivages côtiers et s'est diffusée à l'intérieur des terres jusqu'à Die. Cette hypothèse, bien sûr, est difficile à prouver. Comment démontrer la possibilité d'une relation ou d'échange entre les habitants préhistoriques du Diwa et ceux des côtes bretonnes ou portugaises ? Il n'y a aucune trace écrite, évidemment.
Ça, c'est parce que le stylo n'avait pas encore été inventé. Quel dommage.
Mais nous disposons tout de même d'indices. Des outils très particuliers furent trouvés en ces trois lieux. Des haches en pierre polie d'une jolie couleur verte. Elles étaient faites en jadéite, une pierre rare qui ne se trouve que dans les Alpes. Donc trouver des outils en jadéite aussi bien à Die qu'en Bretagne ou au Portugal implique forcément des échanges, qu'ils soient directs ou par le biais d'intermédiaires. Peut-être est-ce par ce même biais que le récit et le motif du cétacé a voyagé. Par contre, nous ignorons toujours ce que signifie ce motif de cétacé, ce qu'il veut dire pour les populations du néolithique. Bien sûr, nous ne le saurons jamais précisément, mais étudier le lieu et les circonstances dans lesquelles le motif est découvert peut nous donner des pistes d'interprétation. D'ailleurs, il est souvent lié à un contexte funéraire, relèvent les archéologues.
Sauf pour Die !
Tiens, revoilà les taquins. Encore une fois, les taquins marquent un point.
Die ne ferait rien comme tout le monde.
Mais alors, quel pourrait être leur point commun à tous ces motifs ?
J'ai peut-être une idée.
Avance prudemment Stéphane Meder, un chercheur suisse en 2021. Prudemment parce que son idée n'est pas tout à fait nouvelle. Plusieurs avant lui s'y sont cassés les dents et y ont perdu leur réputation par manque de rigueur scientifique. Mais Stéphane Meder, à l'aide d'une méthode solide et d'un peu d'informatique, parvient à appuyer son hypothèse. Il propose en fait de changer de perspective. Et si, au lieu de chercher sur le sol des indices sur la signification du motif de cétacé, nous levions les yeux ? Et si la signification de ce motif se cachait dans le ciel depuis le début ? En mêlant les disciplines de l'archéologie et de l'astronomie, il démontre un possible lien entre la forme du motif de cétacé et les étoiles visibles dans le ciel durant la période du Néolithique. Vous savez la manière dont nous attribuons des formes et des noms à des groupes d'étoiles, à des constellations ? Nous y voyons des balances, des béliers, des taureaux, des casseroles. Eh bien, les hommes du néolithique faisaient sûrement la même chose. Sauf qu'au lieu de voir des casseroles ou des balances, qui n'existaient pas encore, ils y ont vu une baleine ou un cachalot. Stéphane Meder va même plus loin. Après avoir trouvé quelle constellation peut correspondre à la forme du motif, il remarque sa proximité et son lien avec l'étoile polaire, l'un des seuls points fixes du ciel nocturne. Et il se rend compte que cette constellation en forme de baleine servait probablement de repère dans le ciel pour trouver l'étoile polaire. Parce qu'en essence, les hommes du néolithique et nous sommes exactement les mêmes. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles et les mêmes besoins fondamentaux. L'un de ses premiers besoins, c'est de se repérer dans l'espace, dans son environnement. Pour cela, le premier secours vient du ciel. Y trouver des points fixes, comme l'étoile polaire, permet de s'orienter où que l'on soit, sur la Terre ou sur l'eau. Peut-être que graver la forme d'un cétacé dans la pierre revenait ainsi à pérenniser un important repère pour s'orienter dans le monde. Trouver une baleine, a dit, devient alors moins étonnant. Si sa forme a sans doute bel et bien voyagé depuis la côte atlantique, par le biais d'échanges ou des légendes, son sens est à chercher dans les étoiles. Et de cela, le ciel de Dee n'en manque pas. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Dee.